Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin. Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
C'est 23.
L'essentiel de Paul Arcand, tout ce que vous devez savoir chaque jour en moins de 60 minutes. Bonne écoute.
Nous sommes vendredi 27 mai. Bonne journée, bienvenue au 98.5. Alors, ce matin, un peu de pluie. Il y en a eu, d'ailleurs, au cours des dernières heures. On a 18 degrés. Le maximum aujourd'hui devrait atteindre 22. Donc, c'est presque fait. Et l'humidex autour de 28 degrés. Ce soir et cette nuit, averse, risque d'orage également. Alors, c'est vraiment une journée grise, pluvieuse. Ça va se dégager demain. Demain, il y aura encore quelques averses en matinée. Après quoi, on devrait avoir un temps un peu plus clair, si vous voulez. Température autour de 25 degrés. Puis finalement, dimanche, on prévoit une belle journée, c'est-à-dire du soleil et 26 degrés. Revenons sur la tuerie au Texas. D'abord, vous dire qu'il y a quelque chose d'à la fois surréaliste et choquant de savoir que pendant qu'une communauté pleure ses enfants, pendant que des parents sont bouleversés, pendant qu'on questionne le travail de la police, à quelques heures de là, le lobby des armes à feu tient son congrès. Et c'était le même scénario en 1999, quand il y a eu la tuerie à Columbine, donc au Colorado, et il y avait eu quelques jours plus tard le congrès de la National Rifle Association à Denver. Pardon. Ce qui fait que aujourd'hui, vous allez avoir le gouverneur du Texas qui, d'un côté, va se rendre dans la petite municipalité pour offrir ses pensées et prières. Et en parallèle, il a fait un enregistrement en vidéo pour s'adresser aux délégués de la National Rifle. Il y a quelque chose, je vous le dis, de choquant dans ça, mais ça traduit également pas mal l'état d'esprit, je dirais, de beaucoup d'Américains dans le cadre de ce débat qui, malheureusement, suit toujours ce genre de tragédie et aboutit, de façon générale, à peu de changements. Philippe Bonneville est au Texas ce matin. Bonjour, Philippe.
Bonjour, Paul.
Alors, t'es dans un parc au centre-ville, justement, où il y a un mémorial qui a été aménagé pour, évidemment, rendre hommage aux victimes.
Oui, absolument. On appelle ça ici la Placita. C'est un petit parc situé au milieu de la ville. Un petit square, là, c'est situé devant l'hôtel de ville. Et depuis hier après-midi, il y a 21 croix surplombées de grands cœurs bleus qui ont été installées autour d'une fontaine. C'est très joli. Et les gens, particulièrement hier soir, sont venus en grand nombre se recueillir ici. Il y a des dizaines, voire des centaines de chandelles qui ont été déposées au pied de chacune des croix sur lesquels on a inscrit le nom de chacune des victimes. Il y a des ballons qui ont été accrochés, il y a des toutous qui ont été déposés, des messages également qui ont été écrits. Bref, ça risque de devenir le lieu de recueillement au cours des prochains jours pour cette communauté qui est endeuillée.
Bon, on entend de plus en plus de citoyens, de parents, là, critiquer la police, critiquer la façon dont s'est déroulée l'intervention à l'école.
Oui, parce que la chronologie des événements, Paul, elle se précise de plus en plus et la police confirme que ça a quand même pris 60 minutes, donc une heure, pour réussir à neutraliser le tireur, qui a donc eu le temps de tuer 21 personnes, donc de faire un véritable carnage dans cette école-là. Les gens ici disent, Paul, que ça a été beaucoup trop long et vraiment mal coordonné comme opération policière. Il y a une sorte de frustration qui augmente ici de jour en jour. On le sent très bien. Une forme d'incompréhension aussi parce que les gens disent qu'il y aurait eu beaucoup moins de victimes si les premiers policiers avaient foncé sur le tireur directement plutôt que de le laisser se barricader dans une classe avec tous ces enfants-là. Ça a duré donc 60 longues minutes. Incompréhension aussi parce que les citoyens ne comprennent pas pourquoi le tireur a pu aussi facilement entrer dans l'école par une porte qui était débarrer, tout simplement. Alors, tu sais, aux États-Unis, les accès dans les écoles, habituellement, tout ça, c'est barré pour empêcher ce type d'événement-là. Donc, on sent que les policiers sont de plus en plus sur la défensive ici. Leur façon de faire est remise en question par la population. Les policiers qui tentent de justifier leur manière d'intervenir. Il y a cependant eu plusieurs contradictions dans les propos des policiers au cours des deux derniers jours. Donc, ça ajoute à la frustration des citoyens. Bref, les gens ici veulent des réponses et des réponses le plus vite possible.
Bon, maintenant, il y a certains parents qui réclament évidemment un plus grand contrôle d'armes à feu, mais aussi des parents qui veulent que ce soit les enseignants qui soient armés pour mieux protéger les élèves.
Ouais, pour la majorité des gens ici, Paul, au Texas, il est hors de question de réclamer un plus grand contrôle des armes à feu. On est loin de la réalité que l'on vit au Canada, au Québec. C'est vraiment des visions complètement différentes ici. Au contraire, ici, la plupart des citoyens, malgré le massacre qui s'est produit mardi, la majorité des gens pensent que le port d'armes devrait être élargi. Oui, oui, élargi. J'ai parlé avec la mère d'un garçon qui était dans l'école au moment de la tuerie. Pour elle, il faudrait que les enseignants, même dans les écoles primaires, Paul, soit armé pour pouvoir protéger les élèves. C'est son opinion. Je te laisse entendre un extrait de mon entrevue que j'ai réalisé avec elle.
I just think teachers should always have arms, should be armed. If any case of this happens again, they should always be armed, should be trained to at least know how to handle a weapon or anything, just to keep the kids safe from any of this to happen again.
Ça a le mérite d'être clair. En tout cas, hein, selon cette maman, les profs doivent être armés, doivent être entraînés pour ne pas que des tueries ne se reproduisent. Et cette femme-là, c'est pas l'exception, là. J'ai aussi parlé au père d'une fille de 9 ans. Elle aussi, cette fille-là, se trouvait en classe durant la tuerie. Et ce père-là, il est opposé aux gens qui veulent mieux contrôler l'achat et le port d'armes. Lui aussi veut que tous les enseignants soient armés au Texas. Voici ce qu'il m'a dit.
They're trying to take guns away for the whole wrong reason while we're trying to keep them to protect our families and everything. I mean, and teachers can be armed for situations like this. I mean, you're in the hands of a lot of 8 through 11-year-olds. I feel like if they were more armed and protected, I think he would have been stopped towards the entrance.
Et comme il le dit, il est persuadé que si les enseignants de l'école ici avaient été armés, ben il y aurait eu beaucoup moins de victimes. Mais ça, évidemment, c'est pas tout le monde qui pense comme ces deux parents ici. Il y a des gens qui ont d'autres visions, d'autres façons de voir les choses. Voici maintenant les propos très émotifs, on doit dire, d'une grand-maman à qui j'ai parlé également. Une grand-maman dont la petite fille, elle, a été tuée par le tireur mardi. En larmes, quand je lui ai parlé, elle m'a dit qu'elle veut que les gouvernements ici agissent pour durcir les lois sur les armes. Voici ce qu'elle m'a dit.
To not forget when this is over, like weeks, they need to do something now. My granddaughter wasn't here. She was an innocent little girl. I will never have my baby again. And they need to do something about it. They need to not forget us. Don't forget them, please. Do something about it, I beg you.
Donc, vous l'avez entendu en anglais, là, elle supplie les autorités pour qu'il y ait un meilleur contrôle des armes à feu. Mais disons que sa position, ce n'est pas celle de la majorité ici au Texas.
Merci beaucoup, Philippe. On se reparle plus tard dans l'émission. Je vais ajouter peut-être quelques notes à la chronologie. Ce qu'on comprend, c'est que le tueur a d'abord tiré sur sa grand-mère, qui a survécu, je dois dire, selon les dernières informations. Donc, elle est toujours à l'hôpital, gravement blessée, mais elle serait hors de danger. Première chose. Deuxième chose, il a pris son véhicule, s'est rendu à l'école, a eu un accident. Est-ce qu'il a perdu le contrôle? Est-ce qu'il a foncé? Pas clair. Il est sorti du véhicule et a tiré sur des gens en direction de gens qui étaient à l'extérieur. Après quoi, il s'est rendu à l'école, il aurait sauté par-dessus la clôture et serait donc entré par une porte qui était non verrouillée et a pu se diriger vers cette classe double de quatrième année. Il y a des policiers qui patrouillent autour des écoles au Texas. On avait dit au début qu'il y avait un policier qui était pas très loin dans sa voiture. qu'il y aurait eu un échange. Il semble que le policier scolaire, si vous voulez, était présent, mais a vu le gars entrer facilement dans l'école. Deux policiers, c'est une version qu'on nous donne, là, et elle change parfois, sont entrés dans l'école et ont eu un échange de coups de feu avec l'individu. Les deux policiers auraient été blessés légèrement et, évidemment, se sont mis en position de recul. La police pense que toutes les victimes ont été abattues dans les premières minutes. C'est peut-être vrai, mais jusqu'à maintenant, on n'a pas la preuve de ça. Et le grand débat dont Philippe parle, ce sont des parents furieux, et on a vu les images, qui se sont rués vers l'école en apprenant qu'il y avait des coups de feu et qui supplient la police d'entrer. Et la police reste à l'extérieur, on attend l'arrivée du SWAT, donc le groupe d'intervention tactique, mieux équipé, mieux formé pour aller à l'intérieur de l'école. Puis les parents ne comprennent pas ça. Les parents sont énervés, il y a même des policiers qui doivent retenir des parents qui veulent entrer dans l'école. Un des parents qui dit « j'ai une formation militaire, donnez-moi une arme, donnez-moi un gilet pare-balles, puis je vais y aller, moi. Si vous n'êtes pas capable de le faire, je vais le faire. » Et évidemment, il ne l'a pas fait. Et ça m'a rappelé beaucoup ce qui est arrivé à l'école polytechnique. On va parler avec Marc Parent, qui a été directeur du SPVM, puis qui a une expérience terrain très claire. À l'époque, les policiers restaient à l'extérieur pendant que l'épine était en dedans. Puis on a toujours eu ce débat-là. Est-ce que si les policiers étaient entrés plus vite, on aurait pu neutraliser l'épine? Est-ce qu'il y aurait eu moins de victimes? Des questions qui se sont posées. Puis il y a eu une analyse après. Puis on a changé l'approche. Et on a vu donc, dans le cas de Dawson, alors qu'on avait un tireur actif, des policiers qui sont entrés et qui ont réussi à neutraliser le tueur de Dawson. On va faire le point là-dessus un peu plus tard dans l'émission, mais ça amène beaucoup de réflexions, puis les informations, je dois dire, changent beaucoup. On n'a pas une version finale, puis on sent que la police, je voyais les points de presse hier, est assez mal à l'aise, n'a pas beaucoup de réponses claires à donner aux citoyens. Très bien, puis j'ajoute une dernière note, c'est l'histoire infiniment triste du conjoint d'une des enseignantes qui a été tuée dans cette école. Et c'est un couple qui est ensemble depuis 24 ans, 4 enfants, plus vieux à 23 ans, je pense, et donc conjoint bouleversé, inconsolable, qui s'en va se recueillir à ce mémorial et qui fait une crise cardiaque et il est décédé. Donc ces 4 enfants-là ont perdu leurs parents en l'espace de quelques jours. C'est ça aussi. On voit l'espèce de déchirure dans la communauté et dans les familles devant un tel drame. Puis en plus, ben, vous avez cette histoire dont on parlait avec Bénédicte, des ados qui avaient planifié une tuerie dans les moindres détails visant une école à Montréal, dans le quartier Saint-Michel, une école secondaire. Puis, c'est quand tu dis planifier, là, comment préparer les bombes incendiaires, comment entrer dans l'école, faire jouer de la musique. Il y avait un jeune qui était particulièrement ciblé. Et dans leur tête, il y aurait eu des victimes autres. Mais un jeune qui vivait de l'intimidation, je parlais avec son père tantôt, qui n'arrive pas à comprendre, puis c'est incompréhensible, d'en vouloir à ce point à quelqu'un, puis de dire, évidemment, aujourd'hui, ben, on ne l'aurait pas fait, là, parce qu'ils ont été débusqués par la police. C'est peut-être une porte de sortie pour obtenir une sentence pas trop sévère, là, une probation. Ce sont des mineurs, puis la réhabilitation. Mais ils ont quand même pensé à ça. Un, puis deux, on sait qu'il y en a ailleurs, principalement aux États-Unis, qui cogitent ces plans et qui passent à l'acte. Le tueur au Texas avait envoyé un paquet de signaux sur les réseaux sociaux. C'était clair. J'ai un plan, je m'en vais dans une école, je m'en vais tuer dans une école primaire. Alors, on va revenir là-dessus tantôt et vous dire, pour fermer le dossier des tueurs, que la Cour suprême du Canada va décider, et l'annonce sera faite ce matin, combien d'années en prison le tueur de la mosquée de Québec devra passer avant d'obtenir une libération conditionnelle. On sait que le juge Huot, dans ce dossier-là, D'abord, il y avait la possibilité d'accumuler les peines selon le nombre de verdicts ou de décisions de culpabilité dans le cas de meurtre. Et au total, compte tenu du nombre de victimes à la mosquée, Bissonnette pouvait se ramasser avec 150 ans de prison. Et là, le juge a dit ça n'a pas de bon sens. Mais il a quand même décidé qu'il devait passer 40 ans. Donc, il a refait la loi à sa façon, si vous voulez. On va en parler avec Fabrice de Pierrebourg. Et pourquoi au Canada, on est incapable de parler de terrorisme? Ça aussi, c'est une bonne question. Souvent, les procureurs vont nous dire « Ouais, mais ça change peu de choses parce que les sentences vont être là quand même. » Mais dans le cas de Mme Marois, c'était un acte de terreur qui a été posé, je pense. Dans le cas de la mosquée, c'est encore plus évident. Mais on ne veut pas trop, disons, insister là-dessus. Sondage ce matin qui confirme qu'à la fin de la session à Québec et à quelques mois des élections, le premier ministre Legault vogue vers la victoire. Il est plus 2 à 46 % des intentions de vote. Le Parti libéral à 18 % parce qu'il a un bloc solide dans les comtés à forte concentration anglophone, allophone. Le Parti conservateur du Québec est à 14, sauf dans la région de Québec où il est autour de 25 %. Et ça pourrait jouer dur dans le coin de Québec. Ailleurs, c'est nettement moins. Mais quand même, en peu de temps, le parti d'Éric Duhaime a réussi à se faufiler. La grande question avec ces partis, qui, je dirais, carburent beaucoup à la grogne populaire, est-ce que les gens vont se déplacer pour aller voter? Ce matin, dans le Journal de Montréal, Jean-Marc Léger fait un peu cette réflexion. Il y a des gens qui parlent, qui expriment leur grogne, leur colère, mais qui sont tellement contre le système qu'ils vont pas voter. Mais 14 %, Québec solidaire est à 13 et le Parti québécois à 8. D'ailleurs, quand vous regardez les chefs, Paul Saint-Pierre Plamondon est à 2 %. C'est un parti qui disparaît tout doucement, qui s'efface. Et je sais qu'il y a beaucoup de nostalgiques qui se souviennent des grandes années du parti, mais on n'est plus là. Et disons que la CAQ de François Legault est installée. Tout est possible, il peut y avoir des revirements, mais disons que la tendance est assez là. Et la grande question qui a été posée aussi, est-ce que vous avez reçu le fameux 500$ que M. Legault nous a donné? 66 % des Québécois disent oui, 22 % non, et il y a 8 % qui disent ne pas avoir droit à cette aide financière. Ça fait pas mal le tour de nos manchettes.
Vous écoutez l'essentiel de Paul Arcand en 60 minutes. De retour après la pause.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
Vous écoutez l'essentiel de Paul Arcand en 60 minutes. Bonne écoute.
Évidemment, la tuerie au Texas nous amène beaucoup de réflexions. Mais en parallèle, hier, deux des quatre adolescents qui avaient comploté pour organiser un massacre dans une école à Montréal ont été condamnés à 12 et 15 mois de probation. Donc, des mineurs qui avaient prévu s'en prendre à cette école. Quand je dis un plan, là, la juge dans le dossier a été très claire. Ça donne froid dans le dos, ça glace le sang. Sans aller dans les détails les plus épouvantables, mais ils avaient prévu donc mettre le feu à l'école, écouter de la musique, tirer sur des élèves, donc avec des bombes incendiaires. Ils s'inspiraient beaucoup de la tuerie de Columbine aux États-Unis. Mais ce qui est encore plus troublant, c'est de voir qu'un jeune était ciblé par ces quatre-là. L'intimidation, c'est une chose. Le harcèlement, c'est épouvantable, puis beaucoup de jeunes vivent ça. Mais d'apprendre qu'il y a un plan, un complot, et que tu es la principale cible, on peut comprendre sa réaction. Je fais entendre un court extrait d'une entrevue que Bénédicte a fait avec ce jeune-là, puis après ça, je vais parler avec le père du jeune.
Beaucoup de stress, de l'hypervigilance, des cauchemars. Je me suis renfermé sur moi-même. C'est un événement qui te détruit un peu à long feu. Quand ils me l'ont dit, j'ai réalisé que j'avais été de nombreuses semaines vulnérables sans même le savoir, en fait. Puis ça m'a marqué beaucoup aussi.
Jonathan est avec nous. C'est pas son vrai nom, mais vous comprendrez qu'on va protéger l'identité du jeune, de sa famille. Mais je me mets à la place des parents. C'est absolument un cauchemar qu'ils ont vécu, puis j'imagine vivre encore. Jonathan, bonjour.
Bonjour, M. Arcand.
D'abord, comment vous avez appris que votre fils était ciblé par ces individus-là?
En fait, c'est le 5 septembre dernier. On a été appelé par ce beau dimanche matin que j'aurais vu, que j'avais entrepris différemment. La police nous dit carrément comme ça. On a des raisons de croire que la sécurité de votre fils est menacée. Sa vie est en danger. On a intercepté des messages sur les réseaux sociaux de ses amis et on vous demande de venir au poste de police immédiatement. Ça a été l'onde de choc tout de suite.
Est-ce que vous saviez que votre fils avait des problèmes avec certains amis de sa classe ou certains élèves de sa classe?
Non, pas à ce moment-là, parce que c'était sorti de nulle part. Il y avait eu dans les mois précédents, certaines affaires avec certains adolescents autour de mon fils, certains amis, mais à ce moment-là, c'était complètement isolé, donc on ignorait tout.
Et là, quand on vous explique que votre fils est la cible principale d'un complot élaboré par quatre ados, puis il les connaît, là, et que ça passe par mettre le feu à l'école, faire jouer de la musique, tuer des élèves, dont lui, la police vous explique ça, là.
La police nous explique ça, et je vous dis, M. Arcand, et je le dis aux auditeurs aussi, c'est comme pas vrai. On est dans un drôle de film, et mon fils et moi, on se regarde, on se dit, mais ça se peut pas. On se retourne vers les policiers qui sont là, puis qui nous interrogent, puis on dit, mais ça se peut pas. Et eux nous ont même réitéré à plusieurs reprises, ils ont dit, on était extrêmement inquiets. Et quand la police te dit ce matin-là, on est extrêmement inquiets pour la sécurité de votre fils, nous, on perd tous nos repères et je tiens à le dire, parmi les co-accusés, il y en a deux qu'on connaît très bien depuis la maternelle là-dedans, ainsi que leur famille.
Est-ce que vous savez pourquoi ils en voulaient tant à votre fils?
Ça, c'est la question qui va nous hanter jusqu'à la fin de nos jours. Non, on ne sait pas. On a une petite idée parce qu'il y en a un des principaux co-accusés là-dedans qui avait commencé déjà des attaques sur les réseaux sociaux envers notre fils en avril, le mois précédent. Fait que là, du 5 septembre, là, on recule quelques mois avant, on est en avril, et il y avait des rumeurs de le principal accusé avait propagé des fausses rumeurs de harcèlement sexuel à l'endroit de notre fils. Et c'est là qu'on s'est dit, on a fait les liens avec le 5 septembre, quand on était appelé devant les policiers, puis qui nous ont amené la preuve et qui était inculpé. Et là, on a essayé de retracer le fil, mais pour répondre directement à votre question, on ne sait toujours pas ce jour qu'est-ce qui a amené ces jeunes-là, et principalement lui, à en vouloir à ce point-là à notre fils.
Vous dites, deux des jeunes, on connaît les... ont fréquenté mon fils depuis la maternelle, donc des amis d'enfance, entre guillemets. Est-ce que vous connaissez leurs parents?
Absolument.
Est-ce que vous avez pu parler aux parents de ces deux-là?
Jamais. En avril... En fait, le principal accusé, c'était le meilleur ami de mon fils depuis la maternelle jusqu'aux événements avril et les semaines précédentes. C'est qu'il y a eu du rififi entre jeunes, puis nous, on était plus ou moins au courant de ça, mais c'est qu'on a vu circuler sur les réseaux sociaux ces rumeurs-là. Et là, on se replonge à ce moment-là. On est encore aussi au cœur de MeToo. Et une des valeurs familiales chez nous, c'est vraiment de faire attention justement aux êtres humains, aux autres et surtout aux femmes. Et quand la rumeur est arrivée, je peux vous dire, M. Arcand, que mon fils, là, on l'a squeezé dans un coin, comme je pourrais dire. Et la première affaire qu'on a voulu faire comme parents, on s'est dit, si jamais on va apprendre que tu as eu un comportement irrespectueux ou déplaçant envers une fille, c'est sérieux, on a eu des discussions, on nous a juré qu'il n'y avait rien à voir là-dedans, et justement, on a su par la suite, puis même les policiers et tout le monde nous ont confirmé que c'était de fausses rumeurs. Donc, il y a deux choses avec lesquelles on joue en ce moment, c'est l'attentat dont on comprend toujours pas les motifs, puis à quel point on a voulu tuer notre fils, puis en plus, les attaques qui avaient commencé quelques mois auparavant sur les réseaux sociaux, qui voulait détruire sa réputation. Donc, c'est deux énormes poids à traîner.
Parce que vous faites bien de résumer ça. Et c'est vraiment deux choses. D'abord, de propager des rumeurs comme quoi il a harcelé, violé une fille, et c'est complètement faux. Deuxièmement, de penser à un plan d'aller chercher des techniques pour fabriquer des bombes. de s'inspirer de Columbine, qui est la tragédie de 1999 au Colorado, puis qui a donné comme, je dirais, une espèce d'envolée vers d'autres tragédies dans des écoles. Votre fils, comment il vit ça? On a entendu là, quelques mots, là, mais si vous aviez à résumer son sentiment actuel.
Son sentiment actuel, est, il est libéré du fait que la menace de l'attentat est écartée. Il continue encore à le vivre un peu comme nous. Il pense à cette histoire-là, puis il se dit c'est complètement irréel qu'on ait voulu me faire ça. Mais pour lui, la menace est écartée. Mais ce qu'il continue à traîner aujourd'hui, il est hyper vigilant et soucieux de sa réputation. Puis la seule chose qu'il souhaite, c'est de pouvoir retourner le matin à l'école et de pas s'imaginer qu'il peut avoir quelqu'un dans le couloir qui pense encore que ce gars-là, c'est quelqu'un qui a pu commettre des gestes envers des gestes déplacés envers une femme. Fait, c'est ça toutes les émotions qu'il vit.
Monsieur Jonathan, 12 mois et 15 mois de probation pour les deux jeunes qui disent, bon, il n'y avait pas d'armes, on n'a pas trouvé de bombes incendiaires, que de toute façon, que c'était du blabla qu'ils ne l'auraient pas fait. Quand on se fait arrêter, c'est plus facile à dire, là, mais on a vu d'autres jeunes qui planifiaient puis qui, eux, sont passés à l'acte. Comment vous réagissez à la sentence de probation?
Vous le résumez très bien. La sentence, on est encore, sa mère et moi, en train d'analyser ça. Sa sentence, on aurait souhaité... On s'attendait à rien parce que le système nous a vraiment... les intervenants nous ont vraiment... baisser les attentes. Ils nous ont dit le système de la jeunesse, la chambre de la jeunesse, c'est un système réparateur. On veut donner une deuxième chance. Et on consent ça à la limite. Un humain a droit à une deuxième chance, mais ils n'ont même pas de travaux communautaires. Ils ont des réflexions à faire sur eux-mêmes. Et on trouve que c'est un peu léger parce qu'ils ont engendré énormément de coûts, même physiques, parce que les policiers du SPVM, ils ont dépêché tout un armada dans les derniers moments avant le 5 septembre pour justement mettre tout le monde à l'écart pour pas que le plan c'est important de le dire, pour pas que le plan se produise. Et le travail du SPVM, autant en accompagnement qu'en intervention, il a été impeccable. On entend dans l'actualité récemment, il y a des critiques. On peut faire des critiques sur tout, mais à notre endroit et à cet égard-là, ils ont été vraiment impeccables. Donc, pour répondre clairement à votre question, c'est ça, c'est que c'est la sentence. On est en train de se dire, on va laisser la cour et les parents de l'autre partie vivre cette sentence-là. Tout ce que mon fils souhaite, et nous aussi, en fait, c'est d'avoir une certaine forme de paix. C'est drôle à dire. On veut se reconstruire. On laisse la sentence faire son chemin.
Puis j'ajouterai en conclusion, puis je vais vous entendre là-dessus, c'est aussi un message qu'on envoie aux ados puis à leurs parents de être conscients de ce qui se passe en ligne. Parfois, il y a des ados qui vivent des moments extrêmement difficiles parce qu'ils font l'objet de harcèlement, d'intimidation, de menaces. Ils gardent ça pour eux, ils en parlent pas. Et ça peut dégénérer. Puis il y a des parents qui sont pas conscients de ce que vivent leurs enfants parce que les enfants gardent ça pour eux. C'est un avertissement en même temps, je vous dirais, à tous les parents pis à tous les ados, là.
Absolument, c'est une rare tribune que vous m'offrez. Merci de pouvoir me laisser m'exprimer ce matin. Et vous le résumez très bien. On connaît nos parents. Vous avez eu à votre tribune des milliers de parents qui vous ont toujours dit, « Monsieur Arcan, on connaît nos enfants. Ouais. On les connaît mieux que quiconque. » OK, vous les connaissez, vos enfants? Mais vous savez pas tout ce qu'ils font. Ça, c'est vrai, vous venez de le résumer. Mais quand vous voyez un changement radical chez votre ado, il se transforme, il vient avec des cheveux différents, il a le dos courbé, il y a des drôles de fréquentations sur les réseaux sociaux, il faut intervenir. C'est pas le fun quand on est parent, on le sait, hein, vous êtes parent vous-même. Mmh. Il y a des fois qu'il faut qu'on intervienne, puis on n'est plus chum avec notre enfant, il nous aime pas une couple de jours, mais c'est ça être un guide aussi. Puis quand on voit qu'il y a cette transformation-là, puis qu'il y a quelque chose de louche, ben je reviens à mon idée de base. On le connaît, notre enfant, il faut intervenir, il faut faire quelque chose. Donc, cette sensibilisation-là, que sur les réseaux sociaux, on n'a pas une immunité, on peut pas faire tout ce qu'on veut, c'est un cliché, puis on n'arrête pas de le répéter, mais aujourd'hui, c'est plus vrai que jamais.
Merci beaucoup d'avoir pris ce temps-là avec nous. Bonne chance à vous, à votre conjointe et à votre fils, monsieur.
Merci beaucoup, M. Arcan.
Merci, au revoir. Jonathan, c'est un nom fictif, vous comprendrez. Il faut protéger l'identité du jeune, sa famille, des ordonnances qui ont été émises. Mais sérieusement, quand on y pense, c'est extrêmement troublant. Est-ce qu'il l'aurait fait? On ne le sait pas. Eux disent que non. Mais c'était quand même assez sérieux. Et la juge, je le rappelle, a dit que c'était... glacer le sang. Et de s'inspirer de Columbine. Puis quand on connaît l'histoire de Columbine, des deux jeunes qui avaient planifié, deux jeunes qui étaient marginalisés, qui se promenaient avec des grands manteaux noirs, puis qui sont arrivés dans l'école, puis vous avez vu les images des caméras de surveillance, et toutes les images qui ont été retrouvées après de vidéos, eux aussi avaient planifié ça. On va s'arrêter pour la pause, puis au retour, on va aller au Texas, où il y a un autre jeune de 18 ans avait exprimé clairement ses intentions sur les réseaux sociaux d'aller s'en prendre à une école, à tirer dans une école, et c'est ce qu'il a fait, lui, puis on connaît la suite.
Vous écoutez L'Essentiel de Paul Arcand en 60 minutes. De retour après la pause.
Et je le disais tantôt, ça rappelle ce qui est arrivé à l'école polytechnique. Pourquoi? Parce que quand Marc Lépine était à l'intérieur, ce qu'on appelle un tireur actif, à cette époque-là, les policiers, beaucoup étaient demeurés à l'extérieur. Et on a dit, mais pourquoi est-ce qu'ils sont pas entrés? Est-ce que ça aurait permis de neutraliser Marc Lépine? J'en parle avec Marc Parent, qui a été directeur du service de police de la ville de Montréal. Il s'est occupé également des opérations tactiques et actuellement, il est le chef de la direction au commissionnaire du Québec. Marc Parent, bonjour.
Oui, bonjour Paul.
D'abord, peut-être nous rappeler un peu le contexte de Polytechnique et les critiques que ça avait amené.
Bien, en fait, c'est là qu'on voit une différence là, dans l'intervention par rapport aujourd'hui au SPVM. Le fait de rester à l'extérieur alors qu'il y a un tireur actif en déplacement dans un lieu public, donc on parle aussi d'une école, d'une grande superficie, mais on a vraiment changé nos méthodes d'intervention parce que il est clair que d'attendre les unités spécialisées, de faire un périmètre comme on le faisait dans la pratique policière à l'époque, n'était pas une façon avec... disons, dans le contexte dans lequel on doit intervenir maintenant et on le fait beaucoup mieux, ben ça permettait pas de neutraliser la menace et on n'empêchait pas des vies, justement, d'être sauvées parce qu'on n'était pas assez rapide dans l'intervention. Donc, définitivement que depuis, on a énormément cheminé là, dans nos pratiques policières.
Ce qu'on comprend, c'est qu'au Texas, les policiers étaient à l'extérieur pour faire une espèce de périmètre, aider les enfants qui sortaient par les fenêtres d'être en sécurité. Mais on n'entre pas parce que quoi? On se dit on attend le SWAT, puis quand le SWAT va être là, ben ils iront le chercher?
Bien, c'est là qu'on, quand on parle de pratique policière, un n'empêche pas l'autre. On peut évacuer les lieux. C'est très chaotique, hein? Une situation de tireur actif. Mais en même temps qu'on est en train de sauver des vies, exemple, en les évacuant ou en leur demandant de se confiner, bien, on doit s'organiser aussi, puis intervenir du même coup pour aller vraiment neutraliser la menace. Alors, la formation de base maintenant à l'École nationale de police du Québec est inspirée justement des pratiques policières qui ont évolué dans le temps. C'est vraiment de créer des mini-groupes d'intervention, peu importe le nombre, qu'on parle en duo ou en quad, donc d'intervenir immédiatement et d'engager le tir s'il le faut avec le suspect et de le neutraliser, de l'obliger à se confiner pour l'empêcher de poursuivre sa mission qui est souvent là, justement de tuer des gens. Donc, c'est un peu violent comme propos ce matin, mais dans l'intervention policière, c'est définitivement là, la nouvelle façon de faire ici au Québec et je dirais même au Canada. Ce qui m'amène à me questionner, Paul, par rapport à ces organisations-là policières de plus petite envergure, c'est tout le volet de la formation de base, de la formation continue, même au niveau du recrutement et de l'embauche, les critères de sélection. Je ne suis pas convaincu qu'on a les mêmes niveaux, les mêmes standards. Puis sans porter de jugement gratuit, là, je me questionne sur ça aussi. Parce que lorsqu'on arrive dans une intervention comme ça, à haut risque, très sensible, délicate, ça prend un minimum de formation et de simulation. Et ce que je sens, c'est qu'on n'avait pas les capacités de pouvoir s'organiser ensemble.
Si on veut bien comprendre le changement dans la stratégie policière, est-ce que Dawson est un bon exemple, c'est-à-dire que les policiers savaient qu'il y avait un tireur actif, ils sont entrés à l'intérieur du collège?
C'est un excellent exemple parce que les policiers Ducaire et Diallo qui sont à l'extérieur, lorsque le tueur arrive sur place, immédiatement on l'engage. Donc on l'oblige à se déplacer, à bouger Et à ce moment-là, il ne peut pas tomber en mode mission, la mission initiale qu'il s'était donnée. Il est sur la défensive. Et tout de suite après, on connaît la suite, c'est Denis Côté et Marco Barcarolo qui rentrent à l'intérieur, qui vont se positionner en situation de confinement pour le mettre dans un coin. Et on connaît la suite. Bon, malheureusement, on a quand même eu une perte de vie avec la jeune de Souza, mais disons qu'ils ont vraiment sauvé plusieurs vies parce que on a réussi à neutraliser la menace rapidement. On se souvient, à certains moments, il y avait des boucliers humains et c'est lorsqu'il s'est déplacé qu'on a été capable de l'atteindre au bras et par la suite, il s'est suicidé. Donc, c'est vraiment une approche dans laquelle on veut vraiment là, provoquer, mettre de la pression pour intervenir immédiatement là, en continu. Et puis ça, c'est à partir des apprentissages qu'on a fait sur le terrain, des simulations aussi qu'on faisait régulièrement là, sur le terrain pour faire en sorte que ce que les policiers apprennent, lorsqu'ils vont le vivre en situation de stress, il faut bien se le dire, là, c'est extrêmement exigeant de tomber dans les bons réflexes parce qu'on veut s'assurer de l'avoir pratiqué plusieurs fois pour que les policiers, policières en bleu, terrain, aient aussi la capacité et les compétences pour intervenir dans une situation à haut niveau de stress.
Merci beaucoup. Marc Parent, ancien directeur du service de police de la Ville de Montréal et aujourd'hui chef de la direction au commissionnaire du Québec. Deux approches complètement différentes. Et juste au sujet de l'école, il y avait ce qu'on appelle un policier scolaire, là, donc armé, qui était, semble-t-il, dans son véhicule à proximité. Puis c'est pas trop clair, parce que les versions sont différentes. On a dit à un moment donné qu'il aurait pris en chasse le suspect, ce qui serait pas tout à fait vrai. Et aussi, on a découvert que quand le tireur est arrivé au volant de son véhicule, qu'il a créé un accident où il a perdu le contrôle, ça aussi, c'est pas clair. Il est sorti de son véhicule, il a tiré en direction de personnes qui étaient à l'extérieur, s'est dirigé vers l'école et la porte était débarrée. Et pourtant, dans ces écoles-là, on multiplie les expériences de lockdown. On parlait plus tôt cette semaine avec une enseignante à San Antonio qui disait qu'aux 3 mois, les enfants sont habitués à une répétition d'événements d'un tueur actif dans l'école. Alors, c'est quand même étonnant que la porte de l'école, une des portes à tout le moins, n'ait pas été barrée.
Vous écoutez l'essentiel de Paul Arcan en 60 minutes. De retour après la pause.
On a appris hier que la carcasse d'un rorqual avait été localisée, retrouvée dans le fleuve Saint-Laurent près de Contrecoeur en Montérégie. On peut présumer que c'est un des deux qui était remonté jusqu'ici. J'en parle avec Robert Michaud, qui est le coordonnateur du Réseau québécois d'urgence pour les mammifères marins. Monsieur Michaud, bonjour.
Bien le bonjour.
On est à peu près certain que c'est un des deux, je pense, hein?
Ben, à vrai dire, non.
Non,
on n'est pas certain. On est un peu surpris par le délai entre la dernière observation et la découverte hier de la carcasse. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 10 jours-là? Peut-être que l'examen de la carcasse va nous révéler des mystères ou nous répondre à nos questions. Mais pour l'instant, évidemment, on confirme c'est bien un petit rorqual. C'est très possible que ce soit un des deux. On va tenter de vérifier l'identité de cet animal-là. Là, la carcasse a été retrouvée hier en fin de journée, sécurisée. Elle sera remorquée et transportée ce matin à Saint-Hyacinthe, où l'équipe de notre collègue Stéphane Lair va pouvoir jeter un coup d'œil très très attentif aux carcasses. Là, c'est l'état de conservation des carcasses qui va déterminer si on est capable de les reconnaître. On n'a pas de puce électronique sur le dos des animaux, on n'a pas mis d'étiquette sur ces petits rorquals-là, on n'a pas fait de prélèvement biologique qui nous permettrait de retracer leur signature génétique. Alors, on va s'appuyer sur les caractéristiques. On a monté, M. Arcand, des véritables fiches d'identification des deux, avec des photos de tous les côtés. On a remarqué toutes les petites marques qu'ils avaient sur le dos, sur la nageoire dorsale. Alors, si la carcasse est en état de conservation, on devrait être en mesure de vérifier et peut-être de confirmer qu'il s'agit, comme on le pense.
Mais
pour l'instant, on réserve notre jugement là.
OK, ça je comprends, mais ça veut dire que si c'est pas un des deux, c'est quoi, un autre rorqual qui a remonté jusqu'ici?
Ouais, ben ça, c'est une autre hypothèse qu'il va falloir explorer. Vous savez, depuis 2005, on a, sans compter les observations de ce printemps, on avait 12 observations de petits rorquals dans le fleuve Saint-Laurent en amont de Québec. C'est un phénomène relativement rare, c'est pas si exceptionnel que ça. La majorité des observations, c'était pas comme celle de Montréal où les animaux ont été vus et observés pendant plusieurs jours. La majorité des observations, en fait 10 sur 12, la première chose qu'on a vue de ces animaux-là, c'est une carcasse échouée. Il n'avait pas été vu ou rapporté nageant librement. Alors, est-ce qu'une troisième carcasse, une troisième animal se serait aventuré dans le fleuve? C'est pas impossible. On va essayer de répondre à ces questions-là. Pour l'instant, on garde les options ouvertes. Mais je suis d'accord avec vous. Notre première hypothèse, ouais, ça doit être un des deux. Mais il faudra quand même répondre. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 10 jours-là? Il y a quand même beaucoup de monde qui naviguent, qui se promènent. Les gens étaient attentifs. Je pense qu'on avait eu l'attention des gens dans les dernières semaines.
Oui, non, ça, c'est sûr. Mais dites-moi, est-ce que le rorqual, le petit rorqual, a la capacité de retourner vers son habitat naturel ou vers la zone d'où il provient?
Oui, la capacité, définitivement. Ce qu'on ne sait pas, c'est quoi les probabilités de survie après combien de temps de séjour dans l'eau douce.
Okay.
Je disais que les observations qu'on a dans le Saint-Laurent sont assez limitées. On parle d'une douzaine de cas qu'on a documentés, mais on a des collègues au Royaume-Uni, en Australie, en Californie, qui ont suivi l'aventure d'autres baleines dans les eaux douces. Et l'histoire est assez similaire. C'est souvent tragique, c'est souvent fatal pour les animaux. Puis on commence à comprendre un peu pourquoi. C'est que la vie dans l'eau douce pour ces animaux-là comporte toutes sortes de défis. Un, on n'est pas sûr qu'ils s'alimentent. Deux, ils rencontrent des pathogènes auxquels ils ne sont pas adaptés, alors ils ne peuvent pas se défendre. Et il y a des problèmes physiologiques juste avec le contact et les échanges avec l'eau douce dans l'eau qu'ils boivent ou les proies qu'ils essayent de manger. Ça peut créer des déséquilibres osmotiques. Ceci dit, il y a quelques cas rares d'animaux qui sont retournés après de courts séjours. On se rappelle qu'on a un beluga qu'on a rescapé d'une rivière au Nouveau-Brunswick, qui avait passé au moins 3 semaines. On pense qu'elle avait passé peut-être plus de temps, peut-être qu'elle n'avait pas été détectée rapidement, mais un beluga qui avait passé au moins 3 semaines en eau douce. Dans ce cas-là, on avait sorti l'animal de cette situation-là. Il était en trap, il était emprisonné parce que le niveau de l'eau avait baissé. On l'a sorti de là, mais on sait que cet animal-là, qui était en très mauvaise condition, il était très déshydraté, mais il a survécu. Il a survécu au moins pendant 1 an. Alors, on apprend avec chacun de ces cas-là un peu plus. C'est d'ailleurs un des intérêts pour l'équipe de Dr. Lair à Saint-Hyacinthe pour faire une nécropsie. On a eu l'autorisation et le support de Pêche et Océan pour procéder. Alors, si ça se passe bien, si l'état de conservation de la carcasse est satisfaisant, ben Dr. Lair et son équipe pourront peut-être répondre à certaines questions. On est encore un peu à débroussailler tout ça pour
Je vous comprends. Merci beaucoup, M. Michaud. Bonne journée.
Ça m'a fait plaisir. Bonne journée à vous.
Robert Michaud est le coordonnateur du Réseau québécois d'urgence pour les mammifères marins et aussi directeur scientifique du groupe de recherche et d'éducation sur les mammifères marins.
Vous écoutez l'essentiel de Paul Arcan en 60 minutes. De retour après la pause.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir. Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
Vous écoutez l'essentiel de Paul Arcan en 60 minutes. Bonne écoute.
Les pannes d'électricité, bon, ça baisse pas vite entre vous et moi. On comprend que c'est très complexe quand vous voyez les images, photos des ravages, des vents violents de la fin de semaine, de la pluie. Je sais que la volonté de Hydro-Québec et le vice-président était là hier pour nous dire on espère que tout le monde va être rebranché plus tard dimanche. C'est 40 000 abonnés qui sont toujours privés de service et ça baisse lentement. Et ce matin, je veux vous présenter la mairesse de Montebello. Elle a envoyé un message sur Facebook que j'ai trouvé extraordinaire. C'est quelqu'un du coin qui m'a envoyé ça. Où elle invite les citoyens qui n'ont pas d'électricité à venir chez elle en disant « Avez-vous besoin de charger votre cellulaire, de prendre une douche, de faire du lavage? » pas de problème, voici mon adresse, mon numéro de téléphone. Elle s'appelle Nicole Laflamme. Madame Laflamme, bonjour.
Bonjour, M. Arcand.
Pourquoi vous avez pensé à ça, de dire, hey, je comprends que vous êtes la mairesse, là, mais venez-vous à la maison si je peux vous aider?
Ben, je l'ai faite pas parce que j'étais la mairesse, là, mais je suis une citoyenne de mon village et puis j'avais invité tous nos citoyens qui avaient de l'électricité d'offrir à leurs concitoyens qui n'en avaient pas de l'aide. Et c'est ce que j'ai fait. J'avais cette opportunité-là. Moi, j'étais une des chanceuses qui avait de l'électricité. On était peu avec de l'électricité dans le village. Alors, on s'est mobilisé. On a pris toutes sortes de mesures, dont moi, comme mairesse, des mesures d'urgence. Mais ça, c'était mon geste personnel, là, d'inviter mes citoyens qui avaient besoin de l'aide.
Puis, est-ce qu'il y a des gens qui sont allés chez vous?
Ben, j'ai offert ça de hier matin parce qu'on avait vraiment l'impression que c'était pour être long là sur notre territoire. Et heureusement, au cours de l'après-midi, puis au début de la soirée, à peu près tout le monde était branché. Alors, j'ai eu une famille là qui est venue faire son lavage parce qu'ils avaient beaucoup d'enfants. Mais c'est encore offert aux citoyens. Il y a quand même des citoyens qui n'ont pas encore d'électricité parce qu'ils habitent dans la montagne, c'est très boisé, les lignes, les câbles électriques sont au sol. Alors tout le monde est bienvenu là. Si vous avez besoin, la maison est ouverte. Mais on a aussi mis l'église à la disposition avec des stations pour charger, venir faire du télétravail avec le Wi-Fi. On a offert des repas chauds qu'on pouvait réchauffer dans le micro-ondes. Alors on essaie d'aider nos citoyens là qui n'ont pas encore d'électricité.
Je comprends que c'est un geste citoyen puis que les autres ont pu le faire, mais quand même d'inviter chez soi des gens puis de dire, ben, voulez-vous prendre une douche puis venez faire votre lavage, c'est quand même un geste qu'il faut saluer.
Ah, ben, merci, mais il me semble que ça s'imposait, là. Il me semble c'est la charité humaine. On a un petit village, tout le monde se connaît ici. C'est certain qu'on s'entraide, là, puis je suis pas la seule, là. C'est comme on a eu une équipe extraordinaire qui était sur le terrain jusqu'à 2h du matin pour aller voir si les citoyens étaient corrects à la montagne. On s'est mobilisés, là, rapidement. C'est ça, la vie de petit village.
Oui. Avez-vous l'impression que pour les secteurs où c'est pas encore rebranché, que ça va prendre pas mal de temps compte tenu des dommages?
Bien, c'est ça. Moi, nous, parce que les maires, nous sommes en communication avec un réseau spécial d'Hydro-Québec, et puis eux, ils voulaient pas justement nous donner de faux espoirs. Alors, ils étaient incapables de nous dire à quel moment tout serait branché, mais c'est sûr que quand on voit sur le terrain le temps que ça prend pour réparer les poteaux qui sont tombés par terre, c'est assez long comme travail. Et là, dans la montagne, ici, nous avons beaucoup de dommages. Alors, c'est difficile de prévoir. C'est d'un jour à l'autre. C'est pour ça, moi, qu'hier matin, je me suis levé tôt, j'ai tout nettoyé, j'ai mis ça sur Facebook parce que c'était bien possible là qu'il y aura peut-être pas d'électricité pour certains avant peut-être la fin de semaine, dimanche, lundi. C'est difficile à savoir. Hydro-Québec ne peut pas nous donner là vraiment de d'échéance là.
Merci, Mme Laflamme. Bonne journée à vous.
Merci beaucoup.
Au revoir.
Au revoir.
Nicole Laflamme est la mairesse de Montebello.
C'est 23.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.